Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport en grande forme en ce dimanche matin. Ils font les débats, ouais. Avant les débats.
On
les...
est plus en forme hors antenne qu'à l'antenne.
Là, c'est là maintenant qu'il faut aller. Il va falloir mettre la seconde.
Mais l'émission a commencé là.
L'émission a commencé.
Non, on est très, effectivement, on était très bon jusque-là, mais il faut commencer peut-être alors.
On est bien meilleur hors antenne. Ouais.
Attendez, quoi, on est en direct là?
Ouais.
Ah, vous savez pas.
Qu'est-ce que c'est? Venez, on fait semblant.
Alizé Cornet, Fred Weiss et Julien Beneteau, Captain Session. Ah, mais non, c'est pas Captain Session aujourd'hui. Laissez-moi utiliser
non,
le brassard. Par Fred Weiss.
Il m'a menacé.
Oui, parce que la NBA reprend cette semaine. Fred va nous dire que.
Basket au-dessus du rugby, quoi.
Ah, oui, voilà. Bon, ça va être plus ou moins l'idée de ton capitaine en quelques instants.
Il veut se faire le rugby depuis longtemps, mais malheureusement, vous avez laissé le rugby s'installer et vous êtes tous tout bouffé.
Oui, c'est vrai.
Les basketteurs, toi, mon Clara et la bande.
Pour l'instant.
Mais c'est bien, en fait, parce qu'ils ne font pas un débat, ils font 1000 débats en même temps, les GG du sport. En fin d'émission, participez avec vos GG au jeu, tiens d'ailleurs, et remportez votre PC portable Altic, une marque française d'ordinateurs installée à Nantes. Leur mission, simplifier l'achat d'un PC pour les personnes non initiées à l'informatique. 3216 touche 4 ou envoyer sport au 732-16. Sport au 732-16. Eric Salio fait son entrée dans le studio comme une star. On va l'accueillir d'abord, donc, puisqu'il est là, c'est parce qu'on va parler de tennis. Est-ce que vous préférez jouer une fois pour 1 million de dollars ou 1000 fois pour 1 million de dollars?
RMC, le ring des GG.
Ils ne viendront pas pour l'argent. En tout cas, pas les meilleurs.
Tennis calendar is so tight.
Le calendrier du tennis est très serré. J'ai joué beaucoup de matchs ces derniers temps avec Roland Garros, Wimbledon.
Rafael Nadal versus Carlos Alcaraz.
Mais t'es pas dingue. Le pognon est là, il n'y a plus qu'à l'engourdir.
And after day one of the Six Kings Slam, six becomes four. And what a four they are. The top four players in the world.
C'est de l'argent que vous voulez. Ne bougez pas. Je vais vous en chercher.
Two best players on the planet will tilt for the $6 million prize money check at the Six Kings Slam.
Une seule chose compte, le pognon.
On a compris le concept.
Money. Pas besoin d'avoir fait anglais.
On parle de tennis, donc
LV1.
On parle d'argent.
Oui, parce qu'en NBA, il n'y en a pas.
C'est tout à fait logique.
C'est
le basketteur.
La petite balle d'or, non plus la petite balle jaune.
Je vous préviens, aujourd'hui, on va briser tous les tabous. On va parler d'argent. On a brisé le tabou de l'ambition. Après, on va parler d'argent. Ça va être terrible. Les stars du tennis étaient réunies cette semaine en Arabie Saoudite pour donc le Six Kings Slams. En fait, bon, la traduction, c'était les six rois des grands chelems. Hein, pour ceux qui avaient gagné les grands chelems, sauf qu'il y avait certains joueurs qui n'avaient jamais gagné de grands chelems. Tournoi d'exhibition avec Alcaraz, Sinner, Joko, Zverev, Tsitsipas et Fritz. Chaque participant a touché 1,5 million en dollars. Le vainqueur Sinner hier face à Alcaraz a touché 6 millions pour 3 matchs. Et en plus, il est reparti avec une raquette en or. On voit les joueurs de tennis à la Lever Cup, à l'UTS de Patrick Mouratoglou, à Las Vegas aussi, parfois pour un match exhibition. Et parfois faire l'impasse sur un master par-ci par-là, à Shanghai, comme Alcaraz récemment. Les stars se plaignent du calendrier. Mais parfois prennent le temps d'aller là où il y a de l'argent. Les GG, je vous pose la question. Les exhibitions sont-elles une menace pour le tennis? J'ai deux noms. Les exhibitions sont-elles une menace pour le tennis? Alizé Cornet, Julien Beneteau, j'ai deux oui. Fred Weiss et Christophe Cessieux qui, pour l'instant, ont les auditeurs avec eux sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous êtes 67% à penser que oui, les exhibitions sont une menace pour le tennis. On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Eric Salio est donc rentré avec nous en studio. Salut Eric.
Salut les
côté tennisman et tenniswoman ou de l'autre côté?
Eric est surpris par les réponses.
C'est un homme raisonnable.
Les questions ont été reformulées.
Je ne te parle plus là déjà.
Je voudrais bien que c'est une menace. Elles font du mal. Elles font beaucoup de mal au tennis.
Eric Salio a fait une entrée dans le studio pas du tout théâtrale tout à l'heure en disant j'accuse. Et après il s'est assis.
Oh non, je fais pas.
Eric, les stars se plaignent du calendrier et font aussi des exhibitions. On ne comprend plus rien en fait, non, là dans les.
Bah oui, c'est un peu ça. Mais bon, c'est marrant. On avait Arthur Hinertège qui était invité
dimanche
au show et la question lui a été posée. Il a dit. C'est le genre de truc qui se refuse pas. Bah évidemment, si on vient toquer à ta chambre d'hôtel avec une valise pleine de dollars, t'y vas. Non mais le problème, moi,
ça dépend pourquoi quand même, Eric.
Ce qui me gêne, c'est que ces exhibitions soient en pleine saison. Ça, ça me choque.
Ouais, voilà.
Pour la petite anecdote.
Mais Eric, on peut pas les faire hors saison, puisque la saison, elle est du 1er janvier au 31 novembre.
Avant, ça se faisait.
Mais
attends,
saison était plus courte.
Je voudrais juste vous dire que dans le roadbook de la TP, apparemment, on n'a pas le droit de faire des exhibitions sur 3 jours d'affilée. Ils ont été bons, les Saoudiens. Ils ont fait un petit jour de repos. Paf, ils sont très forts. Non, le verre est dans le fruit depuis la Lever Cup. Lever Cup qui s'est installée. On sait que c'est Roger Federer qui a derrière tout ça. Elle s'est installée juste après l'US Open.
La compétition de Roger Federer, on rappelle, Europe contre États-Unis.
Date parfaite, monde. C'est bien vu. Exhibition fantastique, bien produite. J'ai pleuré quand il a fait ses adieux à l'O2 Arena. Rien à dire. Maintenant, ce qui me gêne, et là j'accuse la ATP de cautionner ce genre d'épreuve et de tuer son circuit.
Le doigt est pointé. Hein.
Et je vais vous donner un petit exemple qui va peut-être... Ouais, ça va peut-être vous faire réagir. Quand un athlète arrête sa carrière, Alizé ou Julien, on compte le nombre de titres. Enfin, désolé Julien, pour toi c'est zéro, mais c'est un tacle. Mais oui, mais tu m'as énervé. Et qu'est-ce qu'on compte aussi, Alizé? Le nombre de matchs gagnés dans ta carrière.
Oui, je sais que...
Si je te dis que sur les 1251 succès de Roger Federer, il y a des matchs de Lever Cup. Ouais. C'est pas choquant, ça. C'est pas la preuve que ça t'est acheté par l'ATP. Parce que le format de la Lever Cup, vous le connaissez, un set partout, super tie-break. C'est un truc de minime.
Je savais pas que c'était compté dans les
résultats. Eh ben voilà, mais je vous apprends. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous apprendre
des choses.
Et donc, je trouve ça choquant et ça débouchera, et j'espère que vous allez en parler, sur la disparition des ATP 250. Parce que l'Arabie veut s'acheter une image. Génial. Ils vont avoir leur Masters 1000 au mois de février. Ça va chambouler tout le calendrier d'ATP. Voilà. J'ai tout dit, c'est déjà sur la radio, ça va cartonner.
Je précise juste qu'Eric Salio est venu avec ses notes, c'est un post-it de 2 cm sur 2 cm.
Ouais, le reste est dans son cerveau.
Alizé, les exhibitions sont-elles une menace pour le tennis? Toi, tu dis non.
Je sais que je vous fatigue avec les questions qui sont posées, mais la question c'est, est-ce que les exhibitions sont-elles une menace pour le tennis? Là, tu me parles, est-ce que c'est une menace pour le circuit professionnel, pour les petits tournois? Là, je te dis oui, moi je suis pas du tout pro-exhibition, hein. Je pense que c'est ça fait du mal au tennis, surtout si on n'arrive pas à les endiguer. Si ça reste dans cette mesure-là, c'est encore acceptable. Si ça prend de plus en plus d'ampleur, évidemment que ça va impacter les saisons d'une manière qui va être hyper négative. Mais est-ce que c'est une menace pour le sport, pour le tennis? Je reste sur mon nom, parce que finalement, le coup de projecteur que ça fait sur notre sport, il est quand même pas négligeable.
On a besoin d'un nouveau coup de projecteur.
Regarde tout ce qu'on essaye de mettre en place pour essayer d'attirer un nouveau public, des spectateurs plus jeunes, pour essayer de rendre le sport plus ludique, plus fun. Et ben les exhibitions, ça en fait partie. Et qu'on soit pour ou contre, malheureusement, ça va faire partie du futur du tennis, parce qu'on essaye de mettre en place des choses qui font que le tennis est plus attractif. On a eu un débat il y a 2 mois là-dessus, où je me suis fait un peu descendre, parce que moi j'étais conservatrice. Je suis conservatrice.
Oui,
on
se demandait s'il fallait réinventer le tennis.
Voilà,
un petit peu.
Ouais,
mais
toi,
c'était mon point. T'es la première à dire, il faut pas réinventer le tennis, mais dès que ça, il y a des tournois où il y a un peu de mailles,
le coup de projecteur que ça met sur le sport, les gens qui viennent voir la Lever Cup et toutes ces exhibitions,
mais
c'est des spectateurs
supplémentaires.
Mais l'exhibition
en Arabie Saoudite, ça va être super regardé, il y aura plein de gens dans les tribunes et ça va faire un coup de projecteur énorme sur le tennis. Ça va être énorme sur le tennis, vraiment. Moi, je pense qu'on devrait tout faire en Arabie Saoudite, toutes ces exhibitions en Arabie Saoudite.
Je vous préviens, si vous êtes
sympa,
c'est de l'ironie.
On y vient, Fred.
Je suis d'accord, mais quand c'est des vrais tournois, quand c'est vraiment important, en fait, pour moi, l'essence du sport, c'est quoi? C'est justement le fait de gagner des choses.
Évidemment.
Et donc, pour moi, l'exhibition, déjà, en soi, ça ne représente rien. Pour moi, quand je parle d'exhibition en tennis, je pense au Harlem Globetrotters.
Ouais.
Alors oui, c'est sympa. Mais c'est du théâtre.
On rappelle Harlem Globetrotters,
c'est du show en fait.
Et en fait, ça a quand même fait du bien pour la renommée du basket. Les Harlem Globetrotters à l'époque.
Est-ce qu'on est au même point
que je suis allé voir,
Attends, Christophe,
ouais. sur la Côte d'Azur, c'était un match des Harlem Globetrotters.
Je l'entends, mais c'était un temps qui était il y a de nombreuses années. Le basket n'en a plus besoin et le tennis en a encore moins besoin. Le tennis se porte très bien et c'est vrai que moi, quand je vois, encore une fois, un néophyte que je suis, quand je vois des joueurs qui se plaignent toute l'année du calendrier et qui vont faire
ce genre de match, c'est ça le problème.
Quand je vois que Sinner a des crampes à Shanghai le dimanche et que le mercredi est dans l'avion pour aller en Arabie Saoudite, moi quand j'avais des crampes, c'est que j'étais fatigué.
Mais c'est ça le problème en fait. C'est le discours qu'on comprend pas forcément.
C'est le manque de cohérence dans le discours. Vas-y, Bennett.
C'est la menace. Ça fait beaucoup de mal.
Je sais pas si c'est une menace, etc., mais ça fait énormément de mal parce que aujourd'hui, pourquoi je disais que c'était pas une menace? Parce que les exhibitions ont toujours existé dans le milieu du tennis. Mais à un moment donné, par exemple, Roger Federer, à la fin de ses saisons, il allait faire ses exhibitions en Amérique du Sud avec Del Potro et compagnie. Mais c'était au mois de décembre. C'était une fois que le Masters, une fois que c'était terminé, avant l'Open d'Australie.
Ça n'impactait plus pas la saison réelle.
Calendrier, ça n'impactait pas des épreuves majeures. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent où pour moi c'est des menaces. C'est-à-dire que quand Alcaraz et Zverev jouent la Lever Cup, alors que le week-end d'avant il y a le tour qualificatif de la Coupe Davis et qu'ils ne jouent pas la Coupe Davis.
Eh oui, on en avait parlé. T'en avais parlé. C'est ton capitaine.
Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un problème. Quand et là c'est de la faute de l'ATP et je rejoins Eric sur la structure du calendrier. Ces fameux Masters 1000 sur 12 jours qui sont un fléau pour les spectateurs, pour les non-initiés et pour les joueurs. Quand Alcaraz joue un 500 à Tokyo, gagne et va déclarer forfait pour faire un Masters 1000. Il fait un bras d'honneur à Gaudenzi au CEO de l'ATP. Et il a raison parce que c'est parce que les Masters 1000 sur 10-12 jours, c'est pour les meilleurs joueurs, c'est pas possible. Ça demande, c'est trop long, c'est trop répétitif. Et le problème, c'est que du coup, on galvaude des Masters 1000.
Mais oui, en fait, c'est ça le problème.
Alors que c'est une
pièce essentielle. On a pourri les 250.
Et les 250, on les a tués. Parce qu'aujourd'hui.
On rappelle, pour les auditeurs qui ne savent pas, les tournois, c'est Grand Chelem les plus importants. Les Masters 1000 derrière, les ATP 250.
Non, les
500 et les 250.
Parce qu'à une époque. Surtout qu'on ne veut pas qu'ils disparaissent, les 250. Il y a deux Français en finale. Pour une fois qu'on va des Français en finale.
Ils existent, on a eu le Grand Prix de Lyon, Stockholm, Marseille qui disparaissent. C'était des tournois où vous prenez le palmarès de ces tournoi-là, il y a tous les plus grands qui sont venus jouer. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est terminé.
Mais alors, c'est quoi le problème? C'est la gouvernance du tennis. C'est-à-dire que tu as l'ATP, tu as l'ITF, tu as les autres qui rentrent
World
dedans.
Et personne. L'ITF est devenu World Tennis aujourd'hui.
Oui, mais
c'est du grand
personne
n'importe
quoi. Personne décide. Je veux dire, en rugby aujourd'hui, sûr, les fédérations rugby. Internationales ont menacé de ne plus jamais titulariser en équipe nationale les joueurs qui iront dans le projet R360. Et bah du coup, personne va y aller. En cyclisme, tous les critériums sont organisés à la fin.
Mais
tu veux dire quoi,
la
TFF du CI, parce que l'UCI a dit vous pouvez faire vos trucs, mais en dehors, que ça ne vienne pas empiéter. Là, c'est comme dans le basket, c'est la règle du n'importe quoi. Il y a 15 dirigeants, il y a 15 fédérations différentes.
Tu as complètement raison, tu prêches un convaincu. C'est-à-dire que tout le monde a des intérêts divergents. T'as l'ATP, t'as la WTA, t'as l'ITF et t'as les grands chelems qui sont tous indépendants.
En plus.
Aujourd'hui, c'est quoi? Et tout le monde est, personne n'est d'accord. Quels sont les joyaux du tennis? Ce sont les quatre tournois du grand chelem. Et à une époque, il y avait la Coupe Davis, la Fed Cup, qui était sanctuarisée, etc.
Ouais.
Aujourd'hui, mais t'as aucun moyen de pression. Est-ce que tu trouves normal que Raducanu ne joue pas la phase finale de la Beijing King Cup avec la
joueuse britannique?
En Chine,
c'est Sinner. Attends.
Mais c'est pas la veille, la semaine d'avant ou la semaine d'après. C'est la même semaine, elle joue un 1000 à Séoul. Est-ce que c'est normal?
C'était un 500, mais.
Ou un 500. Ouais. Est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est hallucinant. On a perdu
mais la programmation est devenue absurde et c'est là où il faut quand même écouter les joueurs parce que finalement les exhibitions
c'est à vous peut-être
nous on est ex-joueurs donc déjà on est un peu moins de portée et en fait là on met le focal sur un groupe vraiment très petit de joueurs parce que finalement ces exhibitions elles concernent qui elles concernent 5 à 10 joueurs maximum mais tous les autres qui se plaignent de la programmation ils participent pas à leur Lever Cup à toutes ces exhibitions qu'on voit en fait eux se
donc
plaignent
vous pouvez pas être solidaire par rapport à ça
la solidarité dans le tennis ça n'a jamais existé très dur de mettre des joueurs ensemble
chacun a des intérêts différents.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que les joueurs de tennis gagnent beaucoup d'argent qu'ils ont pas le droit de dire que la programmation est trop chargée, parce que c'est le cas. C'est le cas, la programmation est démentielle.
Une voix qui sort comme ça va pas suffire. Je suis désolé, mais la solidarité, c'est hyper important. Nous, au basket, tu vois, contrairement
parce que vous avez
un syndicat
extrêmement
fort.
Mais nous, on joue pour notre gueule toute l'année.
Et vous avez deux compétitions qui sont les plus importantes. Il y a le championnat de billets, il y a les Jeux Olympiques, il y a l'Euroleague, mais ça prend le... Moi, je vais donner un exemple.
T'as les compétitions qui se déroulent en même temps. Les franchises NBA n'autorisent pas leurs joueurs à aller disputer les championnats.
Moi, je trouve pas ça normal. Une année à l'US Open, il y avait une réunion de joueurs Et il y avait Andy Murray qui a pris la parole parce qu'il y avait un problème avec le prize money sur les grands chelems qui aujourd'hui a augmenté et à l'époque n'avait pas encore augmenté. Et il prend la parole, il fait mais les gars, vous êtes en train de dire quoi là? Vous êtes en train de dire que si la semaine de Roland Garros, il y a un tournoi en Russie, à l'époque la Russie n'était pas en guerre, où il y a 25 millions de dollars aux vainqueurs, prize money confondu. Vous allez aller jouer ça parce qu'il y aura plus d'argent que Roland Garros, alors qu'à l'arrivée, c'est les grands chelems qui font l'histoire du jeu, etc. Et il y avait plus de la majorité des joueurs.
Bah ça se réfléchit.
Qui pensait, qui disait, l'histoire, elle est bien belle.
C'est très dur de créer un syndicat chez les gens.
Après, la renommée et les invitations dans ces tournois d'exhibition se font aussi en fonction de ton rang et ton palmarès. Si tu ne disputes plus un tournoi ou un tournoi sur 10, ton classement, il ne vaudra plus rien. On ne saura pas qui est le meilleur s'il n'y a plus que des exhibitions.
Je voudrais qu'on écoute un des acteurs, Carlos Alcaraz, qui a disputé la finale hier en Arabie Saoudite. Il a été critiqué. C'est ce qu'on fait aussi un petit peu autour de la table pour sa participation. Écoutez ce qu'il répond.
J'ai dit que je suis allé là-bas juste pour m'amuser et jouer. Oublier l'argent, ce serait mentir. Chaque personne travaille pour ça aussi, c'est la vie. J'aime jouer au tennis et la plupart du temps, je ne pense pas à l'argent. Je joue juste pour l'amour, pour le plaisir. Mais il faut être réaliste, il faut penser qu'on veut gagner de l'argent. Et vous savez, l'Arabie Saoudite est le prize money le plus élevé de toute l'histoire. Donc c'était une bonne motivation pour moi.
That was a good motivation and let for me.
C'était motivation. Il parle de l'argent, Yannick Sinner
l'a dit aussi. Il l'explique très bien, moi, je trouve.
C'est pour le vestiaire que tu as pris.
On va en parler tout à l'heure, en quelques instants.
Comment
gérer l'argent?
Il faut aussi, là, pour le coup, je vais dans le sens des joueurs. Il y a une énorme différence d'aller jouer 4 jours en Arabie Saoudite.
Tu vas sans pression et tu prends des tubes, c'est vrai que...
D'aller jouer en 2-7, ça dure 1h15. Tu voyages, t'es en
première.
C'est trop tentant.
Ils te mettent dans les plus beaux hôtels.
Alors attends, Bennett, moi je vais te répondre. Hier, Novak Djokovic a joué un match pour la 3e place face à Taylor Fritz. Il a joué un set hyper long. Il a abandonné en disant « j'ai des problèmes musculaires ». Donc si Djokovic, on apprend qu'il ne fait pas le Masters 1000 de Paris parce qu'il s'est blessé en Arabie Saoudite, et que Alcaraz et Sinner ne viennent pas à Paris, là, ça va quand même poser un petit problème.
Mais oui,
c'est à l'ATP.
Tu viens pas dans les Master 1000, tu viens pas avec un certificat disant que t'es blessé.
Si, ils vont être sélectionnés parce qu'il y a un bonus de fin d'année. Ouais. Si tu participes pas à tous les Master 1000, ils t'enlèvent un petit peu.
C'est pas comme chez les femmes, parce que nous, quand on participe pas à un Master 1000, on a un zéro dans nos résultats et une amende.
Ils sont tellement forts.
Mais si tu commences à avoir 1, 2, 3,
est-ce que le problème, c'est pas que là, tu les obliges à faire les qualifications dans tous les
cas. Non, mais le danger, peut-être, c'est qu'Alcaraz et Sinner deviennent plus fort que le circuit, en fait, et puissent prendre des.
Mais c'est quoi ton moyen de pression, surtout? C'est quoi ton vrai moyen de pression? Parce que si apparemment, eux, ils s'en foutent quand ils prennent un zéro. C'est quoi ton vrai moyen de pression?
Parce que Christophe
parlait du rugby, mais c'est beaucoup plus simple quand il y a 4 nations qui font un sport.
Il y a pas moyen, il y a pas moyen de pression.
Tu peux beaucoup plus facilement gérer. Là c'est toutes les nations qui sont disponibles, les joueurs de partout.
Exactement, parce
comment
que en fait au niveau du classement, les mecs sont tellement forts dans les grands chelems que ils prennent beaucoup de points dans les grands chelems et beaucoup de points dans les quelques Masters 1000. Et ils sont devant les autres, donc au niveau des
classements,
ils ont beaucoup de marge. Donc
mais encore une fois, ça concerne 3 ou 4 joueurs,
mais qui représentent tellement.
Ils sont tellement là dans les grands chelems.
Je vais te dire quelque chose. Le tennis, les instances se couchent devant les grands. La Coupe Davis, pourquoi on l'a réformée? Parce qu'à un moment donné,
ils venaient plus les grands.
Nadal, il a gagné 5 ou 6 fois. Mais Federer, Djokovic, ils l'ont joué 1 ou 2 ans, ils l'ont gagné, et après, ils choisissaient leur rencontre pour pas jouer. Donc là, l'ITF et les sponsors disaient, il faut qu'on les fasse revenir, il faut qu'on trouve une formule. Au lieu de se dire, la Coupe Davis, c'est plus fort que tout.
Ils sont adaptés aux grands joueurs.
Eux, ils sont de passage. À un moment donné, ils vont plus être là. Et on aura d'autres joueurs qui auront envie de jouer à la Coupe Davis sous la vraie forme.
T'as perdu une grande bataille en faisant ça, en fait, face aux joueurs.
Tiens, au
32-16, Lionel, fan de tennis, nous appelle de Mougins. Salut Lionel.
Salut tout le monde.
Bon, toi, t'es...
Tu connais un peu Mougins.
Ah bah oui, là, tu sais, il y a beaucoup... Le sud de la France est particulièrement représenté autour de la table. Lionel, qu'est-ce que tu dis, toi? Les exhibitions sont une menace pour le tennis ou pas?
Je comprends même pas ce thème. Les exhibitions, je suis d'accord, ça concerne que quelques-uns, parce que si le 50e mondial va faire une exhibition, on saura même pas qui y va et on s'en foutra un peu. Donc après, si on critique une blessure en exhibition, bah alors pourquoi pas critiquer ceux qui font des trop gros sessions d'entraînement. Ah, il a pas été lucide, il s'est trop entraîné, bah il fait ce qu'il veut de sa vie. S'il est pas compétitif au match important, il sera le premier à être pénalisé. On va pas lui reprocher de pas être compétent. Je veux dire, Djokovic, il abandonne ici et puis soi-disant ans, il arrive à gagner un Australian Open avec une déchirure musculaire ou aux abdominaux. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Donc quand il veut abandonner, il fait ce qu'il veut. Voilà. On va se foutre de sa gueule quand il nous dit qu'il est blessé et qu'il gagne quand même le tournoi parce qu'il veut passer pour un super-héros. Par contre, on va le critiquer s'il abandonne une exhibition. Bah, il fait ce qu'il veut. Il se gère. En plus, c'est un sport individuel. Après, les programmations. À l'époque, il me semblait qu'ils devaient donner leur calendrier en début d'année. Alors, je sais pas si ça a changé. Mais si ça n'a pas changé, les gars, tout le monde, ils ont leur programme. S'ils font trop, s'ils doivent abandonner pour blessure, bah, il y a un médecin qui officialise si ça vaut le coup ou pas. S'ils doivent être punis, s'ils doivent leur envoyer du prize money ou autre, bah, ils se gèrent. C'est un sport individuel. Ils ont même pas de compte à rendre à un club ou autre.
Ouais, mais ça a un impact sur le circuit, en fait. Ouais. C'est ça la problématique.
S'ils doivent être pénalisés, ils sont pénalisés. Après,
moins de pression, comme disait Fred tout à l'heure.
Je vois pas le gros souci. Normalement, ils se gèrent.
Merci Lionel d'avoir appelé au 32-16, c'est si on ne voit pas
ni Alcaraz, ni Sinner, ni Djokovic à Paris La Défense, c'est pas un souci pour toi.
Il vaut quoi ton tournoi?
C'est pas un souci pour toi.
Ben moi, je vais vous dire non, c'est pas un souci.
Ah, d'accord.
Parce que s'ils y vont pas, pourquoi? Si on veut des têtes d'affiche ou on veut des gars qui font un bon tournoi?
Mais on veut les stars.
Ça, c'est vraiment parce que c'est vraiment le discours d'un passionné de tennis. Vous aimez le tennis?
Ah mais moi j'adore le tennis.
Parce que ça c'est vraiment, moi c'est le discours que j'aurais tendance à avoir. Ça veut dire que je suis pas là pour voir des têtes d'affiche, je suis là pour voir du bon tennis. Ouais. Et en fait du bon tennis on peut voir
avec des tournois et plus fort que les joueurs.
Attendez. La question d'image, je l'entends. Je l'entends que c'est important pour le tournoi d'avoir ses meilleurs joueurs au monde pour représenter le tournoi.
C'est toi qui l'as dit avant, parce que pour gagner de nouveaux supporters, etc., il faut des têtes d'affiche. C'est une certitude.
Mais c'est pour ça que je suis étonnée du discours de notre auditeur, parce que lui, ce qu'il lui importe, c'est de voir du beau tennis, et il se rend compte que même sans Alcaraz et Sinner, on peut avoir des très belles rencontres. Mais je pense que c'est pas malheureusement la majorité, des gens qui pensent de cette manière.
C'est génial, ouais. Shanghai.
Mais regarde, l'histoire a été fantastique au final à Shanghai.
C'est génial.
Mais elle est fantastique.
Je sens un peu de sarcasme dans ta
voix.
C'était
génial. Voilà. Dans le monde entier,
donc dégageons les leaders,
prenons
que des amateurs.
Attention, il y a Georges qui veut reprendre la main, nous couper la parole.
Tu prolonges un quart d'heure le débat, c'est ça?
Non, mais vous savez que si vous voulez avoir de grandes conversations de tennis, il y a un podcast qui s'appelle Cours numéro 1 sur RMC. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de téléchargement.
D'ailleurs, il y a 10 jours, notre thème c'était est-ce qu'on n'est pas en train de s'ennuyer? Bah là, on était en plein dedans.
Et tu t'ennuies là? Tu t'ennuyais?
Je peux m'ennuyer à Bercy, à l'Arena, si les meilleurs sont pas là et les raisons.
Non, parce qu'il va y avoir un Français qui va aller dans le dernier carré.
Les Français vont sortir de ton ennui,
Christophe,
tu vas voir.
Christophe, une moue. Et Herbert, les dernières finales.
Ouais, en plus, il y a la Coupe Davis derrière. Mais les Français doivent briller. On va gagner la Coupe Davis. Bennett l'a dit hier. Je le redis. Je suis d'accord avec lui.
Qui est fan absolu de la Coupe Davis. Vous m'avez tué, mon joueur.
Non, pas nous.
Ah, voilà, un homme triste, Christophe, c'est sûr. Dans quelques instants, on va retrouver un homme heureux. C'est Captain Fred Weiss, qui nous dit que
le basket
va être un tournant.
Le basket va tout bouffer sur ce passage.
À 3 jours de la reprise de la NBA, avec Victor Wembanyama qui revient au sommet déjà. On revient dans quelques instants sur RMC. Merci Eric Salio. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport en grande forme avec Fred Weiss qui va prendre le brassard de capitaine dans quelques instants. Christophe Cessieux, Alizé Cornet et Julien Beneteau qui ont défendu la planète tennis, qui ont défendu le jeu finalement, le jeu. Peut-être pas le sport, mais le jeu.
Le jeu avant tout.
On
n'a
pas défendu, non.
Non, Bennett,
on n'a pas du tout compris nos propos, donc il faut qu'on refasse le débat. Là.
Allez, on va le refaire.
On n'a rien compris du tout à ce qu'on a dit. On n'a pas défendu le jeu. Enfin, mais n'importe quoi.
C'est insupportable.
Bon, mais en fait, moi j'ai hâte d'écouter un vrai capitaine. Allez, Fred.
C'est vrai. Allez, Fred Weiss.
Parce que
dans quelques instants, on va faire un débat pour gagner. Est-ce que tout est permis?
Pour Fred, oui.
On va remonter le temps. Il y a 25 ans, lorsque Senna était rentré dans Prost au Grand Prix de Suzuka. Mais d'abord, donc Fred est notre capitaine des GG du sport ce dimanche.
RMC, Captain Weiss met le brassard.
Captain Weiss. La NBA reprend dans la nuit de mardi à mercredi. Premier match pour Wembanyama avec les Spurs sur le parquet de Dallas dans la nuit de mercredi à jeudi. La reprise de la NBA, pour toi, c'est l'occasion de parler du basket en France et peut-être profiter de toute cette séquence-là pour nous dire.
Bah alors,
peut faire un truc.
Genre, pas uniquement. Time. Le basket est en train de devenir ce qu'il doit être depuis le début. Depuis le début, il est au coude à coude avec le rugby. Et c'est vrai qu'ils nous sont passés devant. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais ils nous sont passés devant. Il se trouve que maintenant, les arguments en notre faveur sont pléthores. C'est-à-dire que, par exemple, notre ligue est bien meilleure. On fait des événements. On a des meilleurs joueurs. On est respecté à l'international. On a des joueurs qui sont draftés. Mais je vais prendre point par point. Le premier point, la ligue. Dans la ligue, les équipes commencent à voir des arénas. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent. Il y a de plus en plus de personnes qui aiment le basket, qui le pratiquent et qui en sont fans. En plus, maintenant, notre ligue a réussi à faire dans un stade, je sais pas ce que ça faisait d'habitude, mais là, ça faisait du basket à Roland-Garros. Et là, quelque chose vraiment où il y a eu une ambiance incroyable, où il y a eu cette envie de développer le basket justement. Et ça a marché. Alors qu'on se disait toujours, non, on va s'interdire de rêver. Et ça a marché. Ensuite, nos équipes, je parlais de l'étranger, nos équipes performent en Euroleague. On a Monaco, même si Monaco, est-ce qu'on les considère français? Oui, ouais. Mais ils sont en finale de l'Euroleague l'année dernière. Le Paris Basketball qui fait une saison fantastique d'Euroleague aussi. On a des joueurs français qui performent en Euroleague. Il y a plein de joueurs français partout en Europe qui sont reconnus pour leur talent, pour leur qualité et qui sont montrés en exemple un petit peu partout. Ensuite, on parle d'autres joueurs. Je parle de Wemby. Wemby, l'amour de ma vie. Le joueur qui est arrivé pour montrer que le basket... Ouais. tant pis pour elle. Je préfère Wemby. Wemby a été ce joueur qu'on rêvait d'avoir depuis des années, qui est l'étendard de notre basket, qui est ce joueur tellement incroyable, qui peut être dans les meilleurs joueurs de la NBA. Qui pouvait rêver de ça dans les années 90, 2000, 2010 même si on avait Tony Parker, c'était pas à ce niveau-là. Ensuite, on a eu numéro 1 de la draft en 2023, donc avec Wemby, numéro 1 de la draft en 2024 avec Risacher, et au numéro 2 avec Sarr. Donc on a vraiment des joueurs qui sont reconnus partout et unanimement, dans le monde entier comme des vrais joueurs de basket. On aime de plus en plus le basket dans le monde. La NBA vient de signer un contrat record avec Prime. Maintenant, parlons un peu des équipes nationales. On nous reprochait souvent le basket de ne pas avoir de résultats internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 Jeux Olympiques de suite, on fait médaille d'argent avec l'équipe masculine. On a montré des choses, on a montré qu'on était présent. On était à Paris surtout, donc ça a forcément été hyper impactant. On a des joueurs sympas qui ne font pas de vagues, qui jouent bien au basket et qui sont montrés comme des exemples aux États-Unis, ce qui est l'Eldorado du basket.
Et il y a un public qui suit.
Il y a un public qui suit. On est tous contents de ce qu'on est en train de voir. Les vieux comme moi se disent, on peut presque mourir en paix. Alors pas tout de suite, mais on peut presque mourir en paix. On est en train de voir l'apogée du basket. Et je sais que la France est un pays qui avance et qui ne recule pas. Donc, on va s'intéresser de plus en plus au basket. On va l'aimer et ça va être le sport numéro 2 qu'il est au niveau mondial.
Le basket va être sport numéro 2 bientôt en France. Il y a un public. Alors en plus, on pourrait parler aussi des investissements. Hein,
mais oui,
Big Flo et Oli, les artistes qui ont
investi. Omar Sy au Paris Basketball. Mais bien sûr.
Mister V, Max Pokora à Strasbourg.
C'est un symbole aussi. Quand t'es
les machins clairs aujourd'hui de Betclic Elite et de Euroleague.
Exactement.
On va en parler.
Et l'équipe de France qui a été sur le groupe TF1 en clair aussi. Parce qu'on a reproché souvent.
C'est une nouveauté, t'as raison.
On a reproché souvent au basket de ne pas être en clair et que ça soit difficile. Tout l'euro a été en clair pour l'équipe de France. Voilà comment on compte
un retard. Formidable commercial quand même. Ouais. On a l'impression, tu sais, les avions sur la Côte d'Azur qui traînent des publicités derrière. J'ai l'impression de voir mon Fred en train de flotter derrière. Aimer le basket.
Ça fait bien longtemps que je n'ai pas flotté.
Non, mais je te verrais bien derrière l'avion, disait aimer le basket.
Ah non, je n'aspire pas à aimer le basket. C'est ce qui va se passer. C'est que les gens vont l'aimer de plus en plus.
Il est en train de se passer un truc.
Il se passe un truc
hallucinant.
Mais le contrat serait étonnant quand même. C'est un sport incroyable, le basket.
C'est un sport incroyable.
Étonnant que ça n'ait pas pris
avant. Moi, j'ai vécu une période où le basket n'était pas suffisamment. Il a été représenté jusqu'aux années 2000. Et ensuite, j'ai vécu cette période où il a quasiment disparu des écrans parce qu'ils ont cherché à avoir des contrats un petit peu trop chers à la télévision.
Ouais.
Et ils ont disparu un petit peu, ce que n'a pas fait le rugby.
Donc ils ont mal négocié un tournant.
En fait, on parlera d'argent tout à l'heure, mais le basket a choisi l'argent plutôt que l'exposition. Et ça a été une vraie erreur pour le basket.
Et ça a changé peut-être. T'as été convaincu par Captain Vase qui voit le basket à un tournant.
Ses arguments sur la NBA, l'Euroleague, les joueurs français, l'équipe de France sont indéniables, sont là, c'est factuel, etc. Je pense que les clubs français, pour qu'ils soient encore plus valorisés et plus mis en avant, il y a un vrai problème de télé par rapport à l'Euroleague, parce qu'ils tombent le mardi, le mercredi ou le jeudi soir. Ils sont en concurrence avec la Ligue des Champions de foot.
C'est pas
donc,
faux.
Donc ça, c'est impossible. Ils sont visibles aujourd'hui
l'équipe,
en clair.
Ouais, l'équipe qui a signé 25 matchs là, donc en clair, et donc énorme progrès aussi par rapport à ça. Ça veut dire que ça fonctionne. L'Euroleague n'a pas toujours
été. C'est une avancée.
Non, mais ça, c'est une avancée. Mais il y aura toujours cette concurrence. Pour moi, l'Euroleague, elle devrait être le week-end. Prendre plus de place à la télé pour que mettre en avant parce qu'il y a des ambiances de dingue, il y a des salles incroyables, Panathinaikos, l'étoile rouge de Belgrade et j'en passe, et que l'ASVEL, Paris et Monaco jouent contre ces mastodontes européens et soient performants, c'est fantastique. Maintenant on parle de l'NBA, il y a un vrai problème. Wembanyama, meilleur joueur, etc., ça a toujours été le cas. Le vrai problème pour moi, c'est que pour voir ces mecs là c'est en pleine nuit. Donc après, on voit que des résumés des highlights.
Mais ah oui, mais aujourd'hui, les jeunes consomment beaucoup de sport via les highlights.
J'attendais cet argument, sauf que la NBA arrive en Europe.
Voilà.
La NBA arrive en Europe.
Ça va être différent. Et pour moi, si vraiment, alors qu'il y a des médailles olympiques, mais il faut que ce soit plus récurrent dans les Euros et dans les Coupes du Monde, que l'équipe de France puisse jouer. C'est un vieux pieu d'un amoureux du sport. Avec ses meilleurs joueurs, plus régulièrement, et gagne un énorme truc. Mm-hmm. Et là, je pense que oui, le basket peut...
Je vais avoir un contre-argument, excuse-moi,
le rugby.
Ça prendra deux secondes. Le rugby,
parce que le rugby, il y a la Coupe du Monde tous les quatre ans, je suis d'accord. Mais le rugby, dans leur histoire, ils ont le tournoi des cinq destinations. Et peut-être que mais quand ils gagnent ou quand ils font un grand chelem du tournoi des destinations, c'est monstrueux. Quand au mois de novembre, ils jouent l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, même si c'est juste un test match, t'as les meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent, alors qu'il n'y a pas une Coupe du Monde au bout. Et ça fait un carton parce que c'est hyper important.
Alors donc, que le basket, c'est vrai que sur les compétitions internationales hors JO, il manque parfois les stars.
Et puis le basket, moi, j'aime bien le championnat de France. Je pense qu'effectivement, il est en train de se développer. Mais j'ai l'impression que ça restera toujours un championnat pour former les joueurs. Parce que dès qu'ils commencent à être bons, ils se cassent. Alors que le top 14 aujourd'hui.
Et le meilleur championnat.
Et le meilleur championnat du monde. Parce que toutes les stars. Parce qu'il n'y a pas l'équivalent, en fait, dans les autres pays. Donc si tu veux voir les meilleures stars de ce sport, ça se passe sur les terrains français.
Mais si t'as la NBA Europe.
Oui, alors peut-être, mais
qui se développe.
Alors, est-ce que le championnat existerait encore? Comment ça pourrait se matérialiser?
Je suis complètement d'accord. Et le championnat de France, c'est un championnat de tremplin. C'est-à-dire que nos stars passent par là. Il faut se rappeler que Wemby, avant d'être Wemby en NBA, ouais, il a été Wemby en France.
Ouais, mais il a rempli les salles, il a rempli Roland Garros.
T'imagines s'il jouait au Paris Basket aujourd'hui, s'il jouait l'Euroleague au Paris Basket. Mais ce serait monstrueux.
Mais je suis d'accord, sauf qu'on ne peut pas lutter avec la NBA qui vampirise un petit peu tout. Mais en même temps, on a des Français qui sont en NBA. On a des Français qui vont jouer en NBA, qui vont revenir pour jouer en équipe de France. Il y a la NBA Europe qui est en train de se développer.
Quand on les autorisera à jouer avec l'équipe de France.
Non, ils ont le droit de
faire les Jeux Olympiques, ouais.
Oui, mais ils ont le droit de jouer l'été. En général, ils ont le droit de jouer l'été, surtout les gros stars comme les Wemby.
Il faudrait peut-être qu'il y ait plus souvent des matchs internationaux avec les meilleurs de chaque équipe.
Le problème, c'est que les matchs internationaux sont souvent dans la saison, et la saison, il y a beaucoup de matchs NBA, donc c'est pas possible.
Non, mais durant l'été, ou alors des confrontations entre certaines franchises NBA et des franchises de l'Euroleague, celles qui sont au top, pour voir.
Mais justement, ce rapprochement avec la NBA Europe va permettre justement cette passerelle encore plus simplifiée, et on devrait avoir plusieurs franchises NBA Europe en France.
Ouais.
Et donc ça va valoriser ton championnat.
Déjà,
le PSG, on vient de voir ce que vient de faire Tony Parker avec l'ASVEL. Il quitte l'Euroleague pour aller en Champions League, qui est
en accord avec la NBA
Europe. Donc c'est un symbole fort. On devrait avoir ça. Donc notre championnat sera valorisé et on aura des joueurs NBA capables de jouer en France.
Le projet NBA Europe, je rappelle, qui pourrait être mis en place d'ici 2 à 3 ans. Hein,
2027,
ça va peut-être révolutionner effectivement la consommation du basket, et comme le disait Alizé tout à l'heure, peut-être prendre sa place finalement,
le
Paris Basket va se faire absorber par le PSG.
On va plus l'arrêter, Fred.
On va plus parler pendant 3 heures. Là.
Dans quelques instants, bravo Capitaine Weiss, vous avez été brillant. Dans quelques instants, on va voir quelle est votre morale sportive. Peut-on tout faire pour gagner, comme l'avait fait Ayrton Senna face à Alain Prost il y a 25 ans tout juste. Les GG remontent le temps dans quelques instants. On vous attend en 32-16.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, avec Alizé Cornet, Julien Beneteau, Captain Fred Weiss et Christophe Cessieux, on va ouvrir la porte du vestiaire. Oh, on en a déjà un petit peu parlé il y a quelques instants, mais on va approfondir le sujet. Comment l'argent guide votre carrière ? Alors, on va briser tous les tabous. Hein. Je veux tout savoir.
Parle au tennisman.
Il y a Bercy qui écoute pour savoir si vous n'allez pas nous enfumer un peu vos déclarations d'impôts, là, les tennismen et les
sortez, sortez tous vos prize money. On veut savoir comment vous avez gagné. Et puis en fin d'émission, participez avec vos GG au jeu du sport. Il y a un PC portable Altic à gagner, la marque française installée à Nantes. Pour participer, 32-16, touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Je vous préviens, avec Max Sabolin, le producteur, on a fait les comptes pour savoir qui est devant, qui est derrière. Au enfin, classement.
C'est des comptes un peu.
Au classement de quoi?
Je vous le dis, des jeux du sport.
Ah, mais j'ai joué une fois, moi.
T'étais pas venu en étant très efficace.
Ah, mais j'avais été nul à tut.
Je t'avais écouté. Ouais. J'avais été nul.
Mais, je compte bien me rattraper aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Bah, mais d'abord, moi, je veux bien.
Je vous pose la question. Un grand moment de tricherie reste-t-il un grand moment de sport?
Le départ a été donné immédiatement. Qui a pris le meilleur? C'est Prost devant Senna. Ça, c'est extrêmement important. Senna va quand même déboîter. Attention, et c'est l'accrochage.
J'ai envie de lui mettre mon poing dans la figure, mais à traverser l'esprit. Et j'ai tellement été dégoûté, vraiment. J'ai même pas eu, l'envie parce que je crois qu'il me dégoûte profondément.
Bah non, mais. Ayrton Senna et Alain Prost à Suzuka, acte 2, je rappelle, 21 octobre 90 en Formule 1, la lutte pour le titre mondial entre les deux McLaren, tiens déjà, s'achève dans un nuage de poussière au premier virage du Grand Prix japonais. Senna provoque volontairement un accrochage avec le Français en guise de vengeance. Le Brésilien était excédé par le traitement qui lui avait été réservé la saison précédente, où il avait été disqualifié pour avoir coupé la chicane après l'accrochage avec Prost. Il avait offert la couronne à son coéquipier et rival. Avec ce crash là, en fait, de 90, Senna décroche son deuxième titre mondial. La question que l'on va se poser avec cette archive, pour gagner, les amis, est-ce que tout est permis? Ah, là, c'est une question morale et philosophique. Alizé Cornet.
Est-ce que l'on doit vendre son âme au diable? Non, la réponse est non pour moi.
C'est vrai?
Mm-hmm. Ah, mais la gagne ne justifie pas tout. Enfin, c'est important d'essayer d'être le plus performant possible, d'essayer d'être ambitieux, comme on l'a évoqué plus tôt. Mais
jouer avec la limite, non?
Non, mais ça, c'est pas pareil. Non, mais...
Alors, jouer avec la limite de ce qui est autorisé, oui, bien sûr, on le voit sur le circuit de tennis, en l'occurrence, par exemple, ceux qui utilisent les toilet break, donc ces fameuses pauses toilettes qui parfois s'éternisent. D'accord, à la limite, mais par contre, la tricherie,
le dopage,
le manque de fair play, l'anti-sportif, pour moi, c'est vraiment rédhibitoire. Et non, ça ne crée pas des grands moments de sport, ça crée tout simplement des grands moments de hold-up.
Ah oui, là, c'est chacun à son avis, Maradona.
Je suis pas d'accord, moi, si je dois vendre mon amodia pour gagner, il n'y a aucun problème. Déjà,
Mais grand bien te fasse, Fred.
Sauf dopage.
Non, mais évidemment. Alors,
mais parce que le dopage, ça fait partie.
C'est même pas un questionnement, en fait. Pour moi, le dopage, évidemment que c'est n'importe quoi. Et tricher, c'est évidemment n'importe quoi. Mais jouer avec les limites, flirter avec les limites, moi je trouve ça très bien.
Mais donc on n'est pas d'accord.
C'est la question qui est mal posée. Et l'illustration.
Je parlais de la vente
au diable. Mais vendre son âme au diable, pour moi, c'est se doper, c'est tricher, c'est manquer de respect à l'adversaire.
C'est juste vendre mon âme et qu'il me propose de gagner.
Et alors, est-ce que vouloir tuer son adversaire, c'est autorisé, ça?
Bah non.
Julien. Parce que ce jour-là,
Senna sur le fait dangereux.
Il veut pas le tuer.
À 250 km/h. T'as vu les voitures comme elles sortent?
Non, mais il veut pas le tuer. Il le sort volontairement.
Ce jour-là, si tu les mets à l'eau, un pistolet chacun, ils se tirent dessus. Mais si il y avait une telle haine entre ces deux-là, mais ça a fait aussi la légende du sport. C'est évidemment la morale répond tout ce qui s'est passé ce jour-là, mais en même temps, ça fait la légende.
C'est comme la main de Dieu.
Ça reste dans les annales, en fait. C'est comme le coup de boule de Zizou, et c'est comme d'autres moments qui font qu'on continue à en parler des années
après. Alors que la main de Maradona, elle fait gagner.
Mais qu'est-ce qui reste dans les annales?
Et la victoire, en fait.
Ce truc qui reste, c'est la victoire. Parce que, honnêtement, 35 ans après, moi, j'étais pas fan de Formule 1 à cette époque-là. Je regarde, tu vois, c'est nul à gagner.
Mais non, mais Fred, c'est pas ça qui reste. En fait, ce qui reste dans l'esprit de chacun, c'est la haine que se vouaient ces deux-là et la rivalité, oui, et, voilà, et qui est aujourd'hui montrée en exemple de la rivalité totale dans un sport.
Voilà. Ouais, mais rien de choquant finalement. C'est cette rivalité qui a été mise.
Il aurait pu le tuer.
C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que ce dont on se rappelle, c'est pas le choquant, c'est le fait qu'ils soient rivaux à un point incroyable et que un ait gagné.
Fred, dis-nous, dans la raquette, par exemple, il n'y avait pas autant de caméras à l'époque. Tout était permis pour s'imposer.
Une anecdote, je jouais avec un joueur dans l'équipe qui transpirait beaucoup, et dès qu'on n'avait plus de temps mort et qu'on ne savait plus comment arrêter le jeu et qu'on était dominé, il devait tomber pour mouiller le sol pour nous laisser le temps d'avoir un temps mort. Il était très mouillé.
C'est comme les joueurs qui font leur lacet 10 fois par match pour respirer, prendre le temps. On peut pas inculquer ces valeurs.
Ça, c'est du sport, quoi.
Ce que je veux dire, c'est que effectivement, pour moi, le dopage, c'est balayé d'un revers, évidemment, tout de suite. La tricherie aussi. Mais après, je te dis, la règle, c'est tout à fait normal. Mais
dans le cas de Prost et Senna, en l'occurrence, elle est où, cette limite-là? Tu la mets où? Parce qu'au final, on aurait pu arriver sur un accident mortel.
Sur
quelque chose de beaucoup plus grave.
Après, il faut quand même.
Oui, alors il y avait de la rancœur par rapport à l'année d'avant.
À quel moment ça va trop loin, en fait?
C'est des pilotes. Si moi je le fais, évidemment, il y a un risque pour l'autre. Si c'est Senna, c'est un peu différent quand même. Il maîtrise mieux son véhicule.
Il n'a rien maîtrisé du tout. Il l'a envoyé dans le décor.
Le plus grand défenseur d'Ayrton Senna sur le PAF en France n'a pas encore pris la parole. Non, mais Ayrton, il avait raison de faire ça?
Et on parle pas de ton fils. Hein.
Il a appelé son fils justement grâce à cet incident en 90. Bonjour la morale.
C'est ce que je voulais
dire. Pour être champion du monde, il y a ce scénario. L'année d'avant, il estime qu'il s'est fait enfler. Merci, au revoir. Sorry, good game.
Donc pour Senna, ça va, mais pour d'autres situations.
Non, parce que là, il n'en fera aucune règle.
Mais comment ça, il n'en fera aucune règle?
Non, il n'en fera aucune règle. Il ne triche pas. L'année d'avant, il se fait enfler au niveau du règlement. Parce que Balestre, président de la FIA français, voulait protéger Prost, etc. Donc, au niveau du règlement, il se fait enfler et il lui donne le titre.
Et ce jour-là, donc avant le départ, il réalise la pole position, mais il estime que la pole position n'est pas au bon endroit.
Bien sûr.
Donc il demande à changer, et en fait Balas lui dit oui c'est ça, ouais. et il laisse Prost avec la bonne partie de la piste finalement qui n'est pas la pole, et donc c'est
mais il n'enfreint aucune règle.
Vouloir tuer son adversaire,
il veut pas le tuer, il veut pas le tuer, mais. Il y a un scénario où tu le mets dehors.
Sur la gueule derrière.
Non mais il y a un scénario où s'il est dehors, il est champion du monde. Il n'y a pas si longtemps. Et on a vu. Et le truc, c'est que Hamilton était beaucoup plus prudent parce qu'il avait peur que Verstappen le sorte. Le fameux dernier Grand Prix à Abu Dhabi où il y a le safety car.
Où Verstappen double Hamilton au dernier tour et est champion du monde.
Et Hamilton, quand il est derrière et qu'il essaie de doubler pendant le Grand Prix. Il sait qu'il ne faut pas qu'il soit trop agressif parce que le moindre accrochage, c'est Verstappen qui est champion du monde. Et Verstappen, il joue plusieurs fois avec le truc. Il est très agressif.
Là, c'est trop flagrant. C'est au bout de 100 mètres, Julien.
Mais il fait un grand bras d'honneur à
Balestre, à Prost et à Balestre.
Encore une fois, on parlait de la règle. Il flirte avec la règle.
Oui, mais c'est ça.
Le vice,
s'il est en accord avec lui-même par rapport à cette décision de flirter avec limite, comme on dit, et qu'il a l'impression d'avoir mérité sa victoire malgré ça,
tout
va bien. Moi, c'est juste que j'ai l'impression que si je dépassais les limites
bien
de cette...
Mais on flirte tout le temps avec ses limites.
J'arriverais plus à me regarder dans une glace et j'aurais l'impression d'avoir volé ma victoire. Donc ça dépend aussi finalement de l'approche qu'a l'athlète vis-à-vis de ces limites-là.
Seule la victoire est belle, moi je vais regarder dans une glace.
Mais tu peux pas dire ça puisqu'en fait il est d'accord avec lui. Tout n'est pas permis pour gagner, tu l'as dit toi-même.
Il y a deux choses pour moi, la tricherie et le dopage.
Donc
le reste,
tout n'est pas permis. Ben,
la mémoire des règles du sport, Christophe Sessieux.
Après ce Grand Prix qui a donc duré quelques secondes, Prost avait dit, perdre ainsi est dégueulasse. Nous n'étions même pas côte à côte. Cet homme ne vaut rien. Il n'existe plus pour moi.
Alors là, je comprends la réaction de Prost.
Et on pensait que jamais il ne serait considéré. Rappelez-vous, le dernier Grand Prix à Imola, lorsque Senna se tue, juste avant, il envoie un petit message, tu me manques Alain.
C'est hallucinant.
qui file les
poils. Chair de poule.
Toutes ces archives à écouter dans Panthéon, l'excellent podcast de Nicolas Jamin qui revient sur.
C'était mieux avant aussi.
Sur toutes ces histoires.
Quel jaloux.
Mais non, mais il y en a aussi. Non, mais si vous voulez l'histoire de Franck et Sénat, vous pouvez l'écouter. Non, mais je rêve. Tu fais même pas ma pub.
On est jamais mieux servi par soi-même. Bien sûr. Et écoutez l'intégral sport également cet après-midi avec Christophe Cessieux. Panthéon à retrouver sur toutes les plateformes de podcast où ça parle de Ayrton Senna, de Mohamed Ali également, et aussi de John Alomou, et aussi les podcasts de GG Remonte le Temps, Christophe Cessieux, effectivement, qui nous a conté de nombreux moments mythiques. Dans quelques instants, les grandes gueules du sport reviennent pour la dernière heure. Le vestiaire, on va parler argent. On mettait tout sur la table, s'il vous plaît. On veut tout savoir, les amis. On revient dans quelques instants sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.